Alors, je commencerai volontiers par l'évangile d'hier. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant en son cœur. J'ai eu la joie d'entendre Schönborg commenter ce passage. Et le cardinal disait qu'en grec, les méditant en son cœur, c'est un verbe qui signifie mettre ensemble. Et les choses, c'est à la fois les événements et les paroles. Et comme il nous a dit très finement, les paroles sont des événements et les événements sont des paroles. Donc on met ensemble les événements et les paroles. Marie mettait ensemble. Ça m'a rappelé que dans la tradition juive, il y a cette idée que les paroles de l'écriture, on les frotte les unes contre les autres comme des silex pour que la lumière jaillisse. C'est dit, Dieu parle de multiples manières et il faut être à l'écoute de toutes les multiples manières pour que la lumière se fasse. On les met ensemble, les multiples manières. Alors, ce que l'on vit là maintenant, ce soir, est à mettre ensemble avec le pape François. J'ai pas oublié ce qu'a dit Alain. Par rapport à l'exhortation apostolique, il y a des choses qui sont pour nous, pour chacun de nous. Le pape est un instrument privilégié par lequel Dieu parle, c'est évident, à chacun de nous, parce qu'il est pasteur de chaque fidèle. Moi, personnellement, je me suis toujours appliqué à le prendre comme premier directeur spirituel, comme premier père spirituel. J'ai reçu ma vocation à travers un discours de Jean-Paul II. Il y a les événements de l'année, tout ce qu'on a vécu. Je crois qu'on a vécu tous des choses assez fortes. En tout cas, pour moi, ça a été assez fort. Mon arrivée ici est un événement non prévu. Et puis, il y a les petits détails de la vie. Petits événements auxquels on ne fait pas attention, mais à travers lesquels tu parlais, des événements récents, des petites choses. Donc, je vais dire une évidence, hein, mais une retraite, c'est tout un ensemble. Comme disait Benoît XVI, la vie spirituelle, c'est tout un ensemble. Et se laisser éclairer par Dieu, c'est tout un ensemble, et il faut mettre tout ensemble. En laissant les choses résonner les unes avec les autres. Pour ça, c'est important de se vider de l'esprit, de toute préoccupation d'apprendre des choses. On n'est absolument pas là pour apprendre des choses. Moi, je pensais juste avant, en disant le chapelet de la Divine Miséricorde, qu'on avait vraiment autre chose à faire qu'apprendre des choses. On vit dans un moment historique, un tournant de l'Église, les appels de l'Esprit Saint sont de plus en plus forts. Quelqu'un qui travaillait au Vatican disait qu'au Vatican, ils sentent qu'ils sont pris dans un tourbillon, qu'il y a des choses qui sont en train de changer en profondeur. Ils ne savent pas où ils sont conduits, mais ils sentent qu'il y a une action très forte de l'Esprit Saint. Donc, c'est le moment, simplement, pour nous, au début d'une nouvelle année, prier l'Esprit Saint pour qu'on puisse s'ouvrir à des perspectives nouvelles, à des appels nouveaux. Moi, je me dis que si chacun de nous, on peut entendre un appel dans ces trois jours, ce sera déjà énorme. Un vrai appel, une vraie lumière. Donc, encore une fois, il faut se dégager la tête de tout besoin de s'enrichir spirituellement et être très cool, comme on dit, hein, léger, pour que l'Esprit Saint puisse nous parler librement. Et qu'on puisse, dans la légèreté, mettre ensemble les choses. C'est-à-dire, en fait, c'est l'Esprit Saint qui met les choses ensemble, hein, qui fait que telle parole résonne avec telle chose qui remonte. Voilà. Donc, on est en contact avec sa vie, avec les événements passés, avec tout ce qu'on a pu être, déjà commencé à comprendre du magistère du pape François. Et on commence, notre méditation. Alors, je voudrais commencer avec la petite Thérèse. J'ai bien aimé le pape François quand il a dit « Je ne suis pas un mystique, mais j'adore les mystiques. » Il n'y a qu'une seule chose à faire pendant la nuit, l'unique nuit de la vie, qui ne viendra qu'une fois, elle a souligné qu'une fois, c'est d'aimer Jésus de toute la force de notre cœur et de lui sauver des âmes pour qu'il soit aimé. Oh, faire aimer Jésus. Ça, c'est vraiment un regard de mystique. Elle voit que ce monde, c'est la nuit. On marche dans la nuit. Il n'y en a que deux choses à faire, aimer Jésus et le faire aimer. Et en fait, c'est tout ce qui restera de notre vie. Tout le reste sera consumé. Vous vous souvenez des paroles de saint Paul, celui qui a construit, n'a pas construit sur le fondement qu'est le Christ, ses œuvres seront consumées par le feu, mais même pourra être sauvé, mais il restera rien de sa vie. Il n'aura pas profité de cette unique nuit que nous avons pour aimer Jésus et le faire aimer. Et au fond, qu'est-ce qu'il cherche le démon ? À nous faire tourner en rond, à nous faire perdre du temps. Est-ce qu'on passe à côté de l'unique nécessaire ? Est-ce que notre vie soit gâchée à cause de ça ? Du moins, une grande partie de notre vie puisse être gâchée. Moi, je l'ai compris en accompagnant des mourants, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis, il m'a beaucoup frappé de voir des personnes en fin de vie avoir des lumières sur le vrai sens de la vie, ce qui en fait la vraie beauté, et quitter ce monde dans une profonde douleur d'être passé à côté de cet essentiel. Évidemment, ils sont convertis, ils sont sauvés, mais il reste qu'ils n'ont pas su tirer profit de cette unique nuit. La petite Thérèse, dans le même esprit, disait « Nous n'avons que cette vie pour vivre de foi. » En fait, c'est ce temps que nous vivons sur Terre, je dirais notre je dirais le, ce qui doit nous préoccuper, c'est de savoir en tirer le plus profit. Et la petite Thérèse, elle a plusieurs fois cité Saint Jean de la Croix, disant que l'amour, c'est profiter de tout, du bien comme du mal. Donc le sage, il sait profiter de tout pour aimer Jésus et le faire aimer. Pour aimer Jésus davantage et le faire aimer. Puisque le reste n'a pas de vrai sens. Et il faut penser que puisque Dieu fait tout concourir à notre bien, que c'est toujours possible dans toutes circonstances d'aimer Jésus et de le faire aimer. Maintenant, quand on dit ça, on se heurte à une difficulté qui est la vision qu'on a de l'amour. Qu'est-ce que ça signifie pour chacun de nous aimer Jésus ? Le faire aimer. C'est le pape Benoît XVI qui a insisté sur le fait que nous devions avoir une vision vraie de l'amour. Moi, j'ai travaillé, comme vous savez, pendant des années avec des thérapeutes, et une conclusion qui tirait, enfin ceux qui avaient une longue expérience, m'ont partagé qu'ils étaient de plus en plus frappés du fait de la nocivité des fausses croyances. Et on pense souvent que ce qui fait que les gens ont des vies déséquilibrées, désordonnées, c'est lié essentiellement à des grosses blessures, des grosses souffrances, mais en fait, l'homme, il vit selon ce qu'il pense. Enfin, au commencement de l'action, il y a la réflexion, comme dit le Sirassi. Et donc, si on a des fausses croyances, on a des fausses actions. C'est-à-dire, on a une vie fausse. Donc, ce qui se passe dans notre tête est important. Et je pense que le démon fait tout pour nous garder enfermés dans des visions fausses. Fausses de l'amour, ça c'est, les thérapeutes le disent, beaucoup de gens. Au bout d'une longue thérapie, se rendre compte qu'ils étaient partis sur une vision fausse de l'amour. fausse du mariage, fausse de la famille, fausse du travail, fausse de la réussite. Enfin, vous prenez toutes les réalités essentielles, vous rendez compte que beaucoup de gens restent enfermés dans une mentalité, une manière de voir qui n'est pas dans la lumière. Et le combat, moi je pense de plus en plus que le premier combat, il est entre la lumière et les ténèbres. Et ce qu'il y a de difficile, c'est de s'ouvrir à des lumières nouvelles. C'est de sortir d'un enfermement mental. On a toujours pensé comme ça. On est conditionnés tous par notre culture, notre milieu familial. On a tous reçu des fausses croyances, hérité de fausses croyances. Et donc, quand je pense à ce qu'ont vécu ces personnes à l'hôpital, je comprends mieux un proverbe, je ne sais pas d'où il vient, mais Jean-Paul II l'a cité plusieurs fois, « Ad lucem per crucem », je l'ai souvent dit, « à la lumière par la croix »,« ad lucem per crucem », que pour nous sortir de nos enfermements mentaux et de nos fausses croyances, il faut que Dieu frappe fort. Donc là où il y a des événements douloureux, des événements un peu traumatisants, des événements qui nous choquent, il y a forcément des lumières derrière. Des lumières à accueillir. Alors, évidemment, on peut toujours se refermer sur soi dans la souffrance, on peut toujours se révolter, on peut toujours bloquer la grâce, mais en attendant, c'est Jésus qui frappe à la porte. La porte de notre cœur pour nous ouvrir à une lumière nouvelle qui doit conduire à une vie nouvelle. Et donc je reviens sur cette idée, je crois qu'on a tous été éprouvés ces derniers mois, et donc il faut attendre des fruits de lumière, ces épreuves. Il faut croire, espérer que le Seigneur va communiquer à travers l'ébranlement de notre être. Comme disait Benoît XVI, hein, le courage de lâcher nos certitudes humaines. Si on a le courage de lâcher sous les coups de butoir de la croix qui traverse nos vies, qu'on puisse lâcher ce sur quoi on avait construit sa vie comme vision de la sainteté, comme vision d'une vie réussie, comme vision de l'apostolat. Là, ce matin, une personne qui m'est très chère, qui m'accompagne depuis longtemps et qui me guide, je lui disais mon désir de pouvoir enseigner à nouveau, de pouvoir prêcher des retraites. Et elle me disait, ben oui, vous êtes très doué pour l'enseignement, c'est possible, mais ce n'est pas pour autant que ce soit la volonté de Dieu. Et oui, mais on voit dans l'histoire de l'Église des gens qui étaient très doués pour certaines choses et qui ont tout lâché. On peut se dire, mais quel gâchis, mais en fait, le Seigneur, il voit plus loin et il veut nous conduire sur des chemins qui ne seront jamais ceux qu'on avait imaginés. Et en tout cas, il ne faut pas rester sur des idées, moi je suis comme ça, et moi je suis fait comme ça, et moi je dois faire comme ci. Non, il faut tout lâcher. Ces deux dieux ne sont jamais les nôtres, hein. Donc, là aussi, vous voyez, par rapport à on pense trop et on ne s'ouvre pas assez dans un esprit pauvre aux lumières divines. On pense trop et on se raccroche à des choses qu'on a comprises à un certain moment, mais qui ne sont plus d'actualité. Je veux dire, j'ai une image qui a été donnée par Marie de la Trinité. Je ne sais pas si vous connaissez Marie de la Trinité, c'est une mystique qui est morte en 1981, que Balthazar avait découvert et considéré comme une très grande mystique. Je ne saurais pas vous en dire plus, mais j'ai connu quelqu'un qui l'a connue. Effectivement, ce qu'elle m'a dit, c'est frappant, mais j'ai lu un écrit d'elle où elle compare les lumières divines à une marée montante. Les vagues poussent toujours plus loin et recouvrent les autres. Ce que je veux dire, c'est que les vagues de lumière en lumière, en fait, on voudrait s'arrêter à la vague d'avant et dire, voilà, j'ai compris ça, maintenant j'en suis là, je pars de ça, puis il y a une autre vague qui va plus loin. si on se raccroche à ce qu'on a compris à un certain moment, on dit, voilà, j'ai cette lumière-là, il y a 10 ans, Seigneur m'a dit très fortement que pendant une retraite, non. Non, Seigneur, toujours plus loin. On va de l'avant, on lâche. On lâche, je dirais, ce qui aurait pu nous donner l'impression d'une certaine maîtrise de notre destinée. Alors, si il y a des lumières successives à recevoir de Dieu, sur quelque chose qui est essentiel à notre vie, c'est bien sur l'amour. La Vierge aurait dit dans une apparition, vous ne savez pas aimer. La personne qui me dirait, moi je sais aimer, je serais très inquiète pour son salut, hein. Enfin, je veux dire, pour sa sainteté en tout cas. C'est évident que Saint Paul a cette expression, nous avons appris, vous apprendre personnellement de Dieu à s'aimer les uns les autres, apprendre personnellement de Dieu. C'est un apprentissage personnel de Dieu. Et là, ici, je trouve, on est dans un Dieu où, en simple dire, on a essentiellement ça à faire, à apprendre à s'aimer les uns les autres de Dieu personnellement. C'est un exercice continuel. Mais je dis, cet exercice n'est pas simplement une question de bonne volonté et d'effort, mais aussi de vision des choses. Qu'est-ce que c'est qu'aimer l'autre en Dieu ? C'est les vérités les plus simples qui sont les plus difficiles à comprendre. Moi, je voudrais partir d'une distinction qu'a fait Benoît XVI sur l'amour. C'est dans son encyclique sur la charité. Pour ça, je m'appuie sur... Il y a deux formes essentielles de l'amour. Je m'appuie sur l'italien. Quand on veut dire à quelqu'un qu'on l'aime bien, au sens qu'on lui veut du bien, on lui dit « Ti voglio bene », je te veux du bien. Prenez l'image d'un grand monarque bienveillant qui veut le bien de ses sujets et qui est généreux, qui leur fait du bien. Beaucoup de gens ont cette image-là de Dieu. Il est bon et il fait du bien. Et puis il y a l'autre forme de l'amour qui est l'amour comme passion. C'est pas « Ti voglio bene » mais « Ti amo ». Ti amo en italien, c'est plutôt le sentiment amoureux, mais en tout cas c'est l'amour comme passion. Et l'amour comme passion, il n'a pas la même forme que l'amour de bienveillance. Il désire l'autre, il désire l'union, il désire la communion. Et si nous posions la question, pour moi, qu'est-ce que c'est que la charité, exercer la charité? Je pense que tout spontanément, on est plutôt dans le sens de faire des choses pour Dieu et pour les autres. En tout cas, on vit dans un monde qui nous pousse à ça. Il faudrait peut-être regarder de plus près. Peut-être regarder de plus près ce qu'est la charité divine. J'ai dans le catéchisme de l'Église catholique, je vous l'avais dit, il y a quand même des définitions à apprendre. Et une qui peut être quand même utile, c'est de savoir comment l'Église définit la charité. Là, je vous le redis cette fois-ci. C'est numéro 1822. La charité est la vertu théologale par laquelle nous aimons Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu. Aimer Dieu par-dessus toute chose pour lui-même. De quoi ça relève, ça? Aimer Dieu par-dessus toute chose pour lui-même. Ben, fondamentalement, si nous réfléchissons bien à notre cœur, ça ne peut relever d'abord que d'un amour-passion. Parce que il s'agit d'aimer Dieu au-dessus de toute chose, c'est-à-dire par-dessus nous-mêmes, plus que nous-mêmes. Et il n'y a que Dieu qu'on puisse aimer plus que nous-mêmes. Le prochain, on l'aime comme nous-mêmes. Et pour aimer Dieu plus que nous-mêmes, eh bien, il faut qu'il y ait une réalité qui nous attire et qui nous sorte de nous-mêmes. S'il n'y a pas d'attraction, il n'y a pas d'extase possible, c'est-à-dire de vraie sortie de soi. S'il n'y a pas d'attraction, je suis condamné à vivre un don de moi-même sous forme sous un mode de ce que Benoît XVI a appelé une fois de moralisme héroïque, c'est-à-dire je me dévoue totalement et je me sacrifie pour les autres. Oui. Apparemment. Mais en réalité, il n'y a pas de vrai don de soi sans sortie de soi. Et la sortie de soi, elle suppose une attraction. Elle suppose que quelqu'un soit plus aimable que moi-même. C'est quoi le péché originel? C'est l'homme qui s'est préféré lui-même à Dieu. Et donc, au lieu de se laisser saisir par la beauté de Dieu, la beauté, la vérité, la bonté de Dieu, il a cherché à se complaire en lui-même. C'est Saint-Louis-Marie de Montfort qui a cette expression secrète, la quasi-imperceptible, oui, il dit quasi-imperceptible complaisance en soi. La quasi-imperceptible complaisance en soi, c'est cette fameuse recherche de soi que la petite Thérèse dénonce un moment dans ses lettres en disant « Mais où trouvera-t-on une âme qui ne se recherche pas elle-même » Cette recherche de soi. Et qu'est-ce qu'on peut rechercher secrètement quand on aime les autres d'un amour de générosité sans être dans une vraie passion pour Dieu? Qu'est-ce que l'homme recherche secrètement?
Être Dieu pour lui.
Je pense que on recherche à se prouver et à prouver aux autres qu'on aime. Parce qu'en réalité, on est de fait fait pour aimer. Et c'est la souffrance la plus grande. Je le vois avec des femmes divorcées, tentées par le suicide, c'est d'imaginer que n'étant plus aimables, elles ne sont plus capables d'aimer. En fait, on a besoin d'être aimé pour aimer. Mais radicalement, on est fait pour aimer plus encore que pour être aimé. Parce qu'on est créé à l'image de Dieu qui est amour. Et donc, on est en recherche d'aimer, mais dans le repliement sur nous-mêmes, on recherche une image de nous-mêmes aimant. Et pour atteindre cette image de nous-mêmes aimant, comme des êtres aimants, capables de donner beaucoup d'amour, eh bien, il faut le prouver. Et on le prouve en donnant, en se donnant, comme on dit. Le seul problème, c'est qu'on se cherche. Il n'y aura rien qui nous sortira de la prison de notre moi en dehors d'un contact avec le seul qui est capable de nous sortir de nous-mêmes par la puissance d'attraction qu'il possède, élevé sur la croix. J'attirerai à moi tous les hommes. C'est pour ça que le Christ est venu, pour nous attirer et nous sortir et nous faire entrer dans une vie extatique. En dehors de ça, on est condamné à ce qu'une fois Benoît XVI a appelé l'activisme bien intentionné. L'activisme bien intentionné, c'est tout ce que l'on fait pour Dieu. En fait, pour soi.
L'activisme comment ?
Bien intentionné. C'est-à-dire, on fait les choses par motif de charité. Ça, c'est sûr. Écoutez, si vous voulez avoir un exemple de la vision qu'a développée Benoît XVI de cet activisme bien intentionné, je vous lis ce qu'il a osé dire à des évêques suisses dans un discours, une homélie totalement improvisée. Il y avait une homélie écrite, préparée, il l'a laissée tomber. Et il s'est lancé dans une homélie improvisée qui a énormément marqué, c'était en 2006. Très longue homélie sur la parabole des invités qui se dérobent dans Luc 14. Je crois que je l'ai, mais vous connaissez bien cette parabole. Hein. Ce sont les premiers invités qui se dérobent. Et pour quel motif ? Un homme faisait un grand dîner auquel il invita beaucoup de monde. À l'heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, tout est prêt » et tous, comme de concert, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, une fois allé le voir, je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je pars les essayer, je t'en prie, tiens-moi pour excuser. » Un autre dit « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Bien. Alors, Benoît XVI dit que ce nom des invités, des premiers invités, nous le connaissons bien, et il fait allusion au séminaire qui se vide, aux paroisses qui se vident. Et alors il pose la question, mais comment est-il possible qu'un homme dise non à ce qu'il y a de plus grand ? Il n'est pas de temps pour ce qui est plus important, qui contient en soi sa propre existence. Il répond, en réalité, les hommes n'ont jamais fait l'expérience de Dieu, ils n'ont jamais goûté à Dieu, ils n'ont jamais ressenti combien il est délicieux d'être touché par Dieu. Le voilà, il leur a manqué l'attraction. Ils n'ont jamais ressenti combien il est délicieux d'être touché par Dieu. Il leur manque ce contact. Et alors, il s'adresse ensuite aux évêques. Il leur dit, bon, évidemment, il leur dit que nous, on doit réveiller, enfin, on doit tout faire pour que les hommes puissent entrer dans ce contact. Hein. C'est bien ce que l'on cherche tous à faire. Alors, il dit, je pense que la première chose, c'est que nous rentrions nous-mêmes dans un contact vivant avec Dieu, avec le Seigneur Jésus, le Dieu vivant. C'est sûr que si nous, on n'est pas attirés par Dieu, on ne risque pas d'attirer les autres. Que se renforce en nous l'organe qui perçoit Dieu, parce qu'il dit qu'effectivement le problème c'est qu'on finit par ne plus voir Dieu, plus être capable de voir Dieu. Donc ne voyant plus Dieu, on ne risque pas d'être attiré par lui. Et là on voit aussi à nouveau les ténèbres, hein. Donc il fait tout pour qu'on ne puisse pas voir le vrai visage de Dieu, être attiré par lui vraiment. Et alors qu'est-ce qui se passe ? Nous aussi nous courons un risque. On peut faire beaucoup, tant de choses dans le domaine ecclésial. Tout pour Dieu. Alors, tout pour Dieu, ça ressemble au numéro 1822, et mon Dieu par-dessus toute chose pour lui-même, tout pour Dieu. Donc, je reprends, le pape dit exactement ceci, hein, nous pouvons faire beaucoup de choses, tant de choses dans le domaine ecclésial, tout pour Dieu, et ce faisant, se tenir totalement à l'écart sans jamais rencontrer Dieu. En fait, nous avons la confirmation de ça dans l'Épître aux Corinthiens, hein, si on la prend au sérieux, quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. De penser qu'un évêque, qu'un prêtre peut tout faire pour Dieu toute sa vie sans jamais rencontrer Dieu, ça donne un peu le vertige. En fait, je pense que si je ne rencontre de fait pas Dieu, il ne va pas faire très longtemps tout pour Dieu. Ça ne va pas durer longtemps. Parce que l'homme vit de relations. Il vit d'union. Et pour pour moi, c'est sûrement la raison majeure pour laquelle il y a tant de pertes dans les premières années de prêtres qui font tout pour Dieu quelques années, mais qui ont oublié que la première forme de l'amour, c'est pas ti voglio bene, mais ti amo. Et que s'il n'y a pas de passion pour Dieu, il n'y a pas d'extase, il n'y a pas d'élan véritable, il n'y a pas la force de la passion, il n'y a pas de joie, et finalement il n'y a pas de force. Ce qui fait que forcément, il y a un moment d'épuisement. Une fois, Benoît XVI a dit, mais je n'ai pas retrouvé le passage exact, le saint, c'est celui qui se laisse fasciner par Dieu jusqu'à se perdre, s'oublier totalement lui-même. C'est-à-dire, encore une fois, c'est cette fascination de la beauté de Dieu qui fait qu'on a trouvé mieux que soi et qu'on se perd. On se perd dans un mouvement, non pas de générosité folle qui fait qu'on perdrait toutes ses forces et qu'on finirait par mourir, mais on se perd dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire on se quitte soi. Et en vous disant ça, je repense à la parole, une dernière parole d'un malade qui était très scrupuleux, qui m'avait dit à quel point toute sa vie avait été empoisonnée par la maladie du scrupule, et qui est la dernière parole qu'il a prononcée. J'aimerais sortir de moi-même. Je pense qu'en chacun de nous, il y a la nostalgie de l'extase. Parce que c'est là l'amour. L'amour pur, il est là. Il n'est pas dans une générosité folle. Il n'est pas dans l'héroïsme, le moralisme héroïque. Le mystique, celui qui atteint l'union mystique, c'est celui qui vit les choses à cette hauteur-là, dans une extase continuelle, et en étant libéré de cette recherche de lui-même, parce qu'il est fasciné par Dieu, et qui n'est plus tenté de se regarder lui-même. Il y a mieux à voir. Alors on trouve dans les écrits, notamment de Saint Jean de la Croix, une description de cette relation, de cette passion d'amour pour Dieu. Bon, disons plus précisément pour le Verbe incarné, puisque c'est lui qui se laisse voir et qui, je dirais, exerce sa puissance d'attraction. Mais en même temps que Jésus exerce sa puissance d'attraction, il nous prend dans son extase vers le Père. Donc on peut avoir une relation amoureuse au Père. Dans le Christ. Et donc on trouve de très beaux écrits sur les épousailles mystiques. Et en vous disant ça, je repense à une personne convertie qui était une grande médium de Paris. Comme toutes les médiums, elle avait une grande sensibilité et elle avait une grande mémoire en plus, et elle connaissait pratiquement par cœur Sainte-Thérèse d'Avila. Et elle a mis à peu près 15 ans à réaliser qu'elle se croyait dans une vie mystique, mais que c'était tout dans la tête. Autrement dit, le démon, il est fort aussi, là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent la mystique par imprégnation de lecture, et qui sont tellement pénétrés de la beauté du témoignage des mystiques qu'ils s'y croient. Mais malheureusement, ce n'est pas le chemin. Il y a aussi des personnes qui commencent leur vie par une expérience mystique, c'est-à-dire ils ont une rencontre amoureuse où ils sont saisis par le Christ. Père Thomas Philippe, qui m'a beaucoup marqué, disait que lui, il trouvait qu'il y avait beaucoup plus de grâces comme ça, qui étaient données, très fortes, donc on peut dire des grâces d'union, enfin d'extase mystique données à des jeunes convertis. Mais le problème, c'est qu'il faut accepter que ça ne dure pas. Pourquoi ça ne peut pas durer? Parce qu'il manque les purifications. C'est-à-dire ça, c'est vraiment un moment, ça peut durer quelques mois, éventuellement quelques années de grâce intense comme ça. Moi, je sais que quand j'ai répondu à l'appel de Dieu, j'ai reçu des grâces de quiétude et que je pouvais passer des nuits entières à l'adoration sans problème. Ça ne me pesait pas, j'étais porté par des grâces de paix. Mais c'est pas pour autant que les purifications étaient faites. C'est comme si on était porté à bout de bras, par je dirais, l'Esprit Saint, hein, qui nous enveloppe de cet amour. Je dirais, fervent de cet élan vers Dieu, de tout ce qu'on ressent, mais en réalité, on n'est pas encore capable de sortir vraiment de soi. Parce qu'il y a toute cette racine d'orgueil, toutes ces racines d'attachement humain, enfin, il y a tout un terrain au fond du cœur qui n'est pas purifié. C'est de ça dont on va essayer de parler, mais il faut bien comprendre que le démon, il fait tout pour, ou nous faire croire qu'on est déjà arrivé, ou nous décourager en nous disant, ben voilà, tu as vécu des expériences très fortes, mais vois maintenant dans quel état tu te trouves. Hein. Et souvent, le démon fait que les gens finissent par douter de cette expérience première. Disant, étant donné la manière dont je vis maintenant, c'est que c'était sûrement une illusion. Non, c'est pas une illusion, c'était une première amorce, des prémices, à laquelle Jésus dit, voilà, c'est vers ça que je veux te conduire, mais après, accepte d'avoir passé par des chemins étroits et resserrés, pour que ça puisse devenir un véritable état d'union. Quoi on peut reconnaître un véritable état amoureux, si je puis dire, qu'on vit au fond de soi-même, qu'on commence à rentrer dans une vraie relation d'amour au sens fort du terme, de l'amour véritable, avec, une fois Benoît XVI a eu cette expression, il a parlé de l'amour avec toute la passion de l'amour véritable. L'amour véritable pour Dieu est peut-être que passionné. Marthe Robin, évidemment, c'était une grande passionnée. À quoi on peut reconnaître qu'on commence à rentrer dans une passion pour Dieu? Pas nécessairement à la grandeur des sentiments, évidemment. Hein, c'est pas nécessairement quelque chose de sensible. Mais moi, ce qui me frappe, puisque je connais une personne qui vit intensément cela, c'est... D'abord, j'ai envie de dire, une pureté qui va de soi, au sens où on ne va pas chercher ailleurs parce qu'on a trouvé le vrai trésor. Donc, quand on rentre dans une vraie passion pour Dieu, les problèmes de chasteté, de pureté, ça simplifie normalement. Parce qu'on ne va pas grignoter ailleurs. Quand on goûte le Créateur, on va plus s'accrocher à la créature. Quoi. Et d'ailleurs, chez des nouveaux convertis, on voit des nouveaux convertis qui, sous le coup de cette expérience amoureuse de Dieu, de fait, n'ont plus de chute au niveau sexuel pendant un certain temps. Parce que l'extase amoureuse avec Dieu prend la place de la recherche de l'extase au niveau sexuel, affectif. Mais donc, chez des personnes qui rentrent là-dedans, on sent qu'il y a cette liberté dans les relations affectives. Très grande liberté parce que elles ne sont pas dans le besoin de plaire. Il n'y a plus de place pour ça. Une autre chose que je note, c'est que ça nous fait rentrer dans une grande liberté, la spontanéité. Parce que c'est l'élan qui nous fait vivre vient du plus intime du cœur. c'est pas, on n'est plus dans un, dans des, comment dire, dans des actions qu'on s'oblige à faire par amour pour Dieu. On est dans un élan intérieur qui fait que, animé par cette passion, on agit passionnément. Quand on agit passionnément, on agit spontanément. On ne se pose pas de questions, on se laisse mouvoir et guider par l'amour à ce moment-là. De fait, c'est l'amour qui anime. Remarquez que l'amour est fait pour animer toutes nos actions à travers les sept dons de l'Esprit Saint. Donc, l'état normal du chrétien, c'est d'être animé par l'amour. Mais ce n'est possible que si c'est un amour passionné. À ce moment-là, il est vraiment la force motrice. Benoît XVI a cité Denis l'Areopagite définissant l'amour comme une force unitive, une force qui recherche l'union. Eh bien, récemment, le pape François a dit: tout ce que nous faisons, devrions le faire pour rencontrer Jésus. Regardez-lui comment il aime les pauvres. Il ne se fait pas un devoir d'aimer les pauvres en disant: il faut que je, comme pape, je donne l'exemple en aimant les pauvres. Il ne parle que d'une chose: embrasser la chair du Christ. C'est amoureux, ça. En fait, c'est son élan vers le Christ, rencontrer Jésus, qui le pousse, même, semble-t-il, à sortir la nuit pour aller embrasser le Christ. Il n'y a pas que l'adoration du Saint-Sacrement. Il y a d'autres manières d'embrasser le Christ amoureusement. Qui le vit à ce niveau-là, hein, on voit bien la différence entre des personnes qui sont dans des activités caritatives et qui disent, je me souviens d'un dominicain qui avait dit une expression très malheureuse qui faisait rire dans un repas mondain, pour moi ça fait longtemps que l'amour n'est plus un plaisir mais un devoir. C'est de la bêtise. C'est de la bêtise et ça dégoûte du christianisme. C'est un très mauvais théologien. La jouissance qui est donnée dans l'extase est beaucoup plus grande que n'importe quelle expérience, je dirais, au niveau sexuel. La meilleure preuve, c'est que ceux qui rentrent là-dedans se passent tout à fait de, peuvent se passer tout à fait de relations. Je suis tenté à ce niveau-là. Bon, enfin, c'est un détail, mais c'est pour dire que dans cette passion pour Dieu, il y a une liberté: aime et fais ce que tu veux. On agit selon son cœur, parce que le cœur, il est de fait, du fond de lui-même, tourné vers Dieu. Donc on est libéré de ces tiraillements, entre d'un côté notre devoir d'être chrétien et fidèle au Christ, et puis de l'autre côté les passions de la chair, les passions humaines qui nous poussent à vouloir ceci, à ressentir cela. L'unification se fait dans la passion amoureuse, l'unification de l'être. Il n'y a que cet amour assez, c'est l'amour le plus profond évidemment, c'est la forme la plus profonde de l'amour, c'est le jaillissement premier de l'amour, c'est l'amour-passion. Et du plus intime de mon cœur, cette force d'union qui est la charité divine investit toutes mes facultés et fait que l'amour m'inspire et à la fois lumière et force, inspire et meut, à travers don de force, don de conseil, don d'intelligence, don de sagesse. Et peut-être une troisième chose, mais ça revient au même, il y a une force, il y a une capacité d'endurer, il y a une capacité de porter, parce qu'il y a une paix profonde, une joie intime, qui n'est pas toujours sensible, mais qui fait que la personne, elle est en contact avec Dieu, elle repose en Dieu, et même si, comme Mère Teresa, ou comme la petite Thérèse à la fin de sa vie, elle vivait une nuit rédemptrice, et même si au niveau de sa sensibilité, elle était privée de la joie de l'union, malgré tout, il y a un fond de paix et de joie indicible qui fait que ce sont des personnes fortes, qui ne sont pas submersibles, elles sont insubmersibles. on a vu ça avec le pape Jean-Paul II, comment il arrivait à tenir. Mais je pense, ici je pense à un autre témoignage en fait qui me touche beaucoup. Donc je vous laisserai, je vous ai fait des photocopies. Je pense à un autre témoignage d'une force donnée à quelqu'un qui était un bon serviteur de Dieu et qui est devenu un amoureux de Dieu. Le cardinal François-Xavier Van Thuan. Je vous cite l'épreuve à travers laquelle Jésus l'a fait passer d'une vie de serviteur à une vie d'ami au sens le plus fort. En parlant avec Francis Cohn, qui a pendant plusieurs années travaillé au Vatican, à l'époque où Van Thuan y était, Van Thuan, les gens du Vatican, le petit personnel, disaient de lui que c'était quelqu'un de simple. Il était simple. Il n'avait plus de personnage à jouer, cet homme-là. Il était simple, de la simplicité des amis de Dieu. Écoutez le prix qu'il a dû payer. Durant ma longue tribulation de 9 années d'isolement, donc il était tout jeune évêque, enfin il avait quelques années de ministère épiscopal quand il a été arrêté et mis en cellule d'isolement. Donc 9 années d'isolement, dans une cellule sans fenêtre, parfois soumis à la lumière électrique pendant des jours, d'autres fois plongé dans l'obscurité. Je suffoquais à cause de la chaleur, de l'humidité, à la limite de la folie. J'étais encore un jeune évêque, avec derrière moi 8 années d'expérience pastorale. Je ne réussissais pas à dormir. J'étais tourmenté à l'idée de devoir abandonner le diocèse, de laisser s'en aller en ruine tant d'œuvres que j'y avais engagées pour Dieu. J'expérimentais comme une révolte de tout mon être. Difficile de ne pas comprendre. Il en avait fait des choses pour Dieu. Il était très brillant, Van Thuan, très intelligent, et puis d'une autre famille. Il avait un oncle évêque aussi, enfin, il était très entouré, c'est un jeune prêtre qui a été tout de suite remarqué pour sa grande intelligence et sa grande piété. Une nuit, une voix m'a dit au profond de mon cœur, « Pourquoi te tourmenter ainsi? Tu dois faire la différence entre Dieu et les œuvres de Dieu. Ti amo, ti voglio bene. » Tout ce que tu accomplis et que tu désires continuer à faire, les visites pastorales, la formation des séminaristes, des religieux, des laïcs, des jeunes, la construction d'écoles, de foyers pour étudiants, les missions pour l'évangélisation des non-chrétiens, tout cela est excellent. Ce sont les œuvres de Dieu, mais non pas Dieu. Si Dieu veut que tu abandonnes tout cela, fais-le tout de suite et aie confiance en lui. Dieu fera les choses infiniment mieux que toi, confiera ses œuvres à d'autres qui sont bien plus capables que toi. Tu as choisi Dieu seul, non pas ses œuvres. Cette lumière, dit Van Thuan, m'a apporté une paix nouvelle qui a totalement changé ma manière de penser. Vous voyez, la manière de penser qui change. Une autre manière de penser, on peut dire l'amour, hein, et c'est en tout cas sa mission de prêtre, qui m'a aidé à dépasser des moments physiquement à la limite du possible. C'est là où je parle de force. Dès cet instant, une force nouvelle a rempli mon cœur et m'a accompagné pendant 13 ans. En fait, c'était au début qu'il a reçu cette grâce. Je ressentais ma faiblesse humaine, je renouvelais ce choix face aux situations difficiles et la paix ne m'a jamais manqué. Quand Saint Paul dit la charité supporte tout, c'est ça. Choisir Dieu et non pas les œuvres de Dieu. Choisir une relation, chercher la relation, la vraie relation d'amour avec Dieu, amoureuse avec Dieu, et non pas les œuvres de Dieu, non pas le faire pour Dieu. Voilà le fondement de la vie chrétienne à chaque époque. Et c'est en même temps la réponse la plus vraie que l'on puisse donner au monde d'aujourd'hui. Là, il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais je crois qu'on vit dans un monde qui ne peut pas se contenter d'une religion de devoir. Qui veut une religion amoureuse. Une fois le cardinal Ratzinger a dit que l'homme moderne en avait assez d'une morale du respect, qui voulait une morale de communion, qui cherchait la communion. Toute cette morale, il faut respecter les autres, il faut aimer l'autre comme soi-même, faites aux autres, rendez service, enfin bon. respecter les droits de chacun. Enfin, tout ça, c'est bien, mais s'il n'y a pas de passion derrière, on s'essouffle. En tout cas, pour lui, c'est le chemin par lequel se réalisent les desseins du Père sur nous, sur l'Église, sur l'humanité en notre temps. C'est sûr que aimer Dieu, préférer Dieu aux œuvres de Dieu, comme on dit traditionnellement, préférer Dieu aux œuvres de Dieu, c'est ça qui laisse à Dieu une liberté totale. Moi, si dans ma tête, je garde l'idée que je suis fait pour être prof, et que je retrouve des capacités d'enseigner et tout ça, ben c'est moi-même qui mets des limites à ma vie. Je sors d'une relation amoureuse à Dieu. Quand on aime quelqu'un, ben on veut son bon plaisir, on veut lui plaire simplement. Si on l'aime passionnément, on cherche qu'à lui plaire. On n'a plus d'autre désir que de lui faire plaisir. Donc on peut lâcher ses désirs propres. Si on a encore des désirs propres, c'est qu'on n'est pas encore tout à fait dans une relation vraiment passionnée. La passion, elle est folle. Elle ne calcule plus, elle ne mesure plus rien. Aimer Jésus, comme disait Jean-Paul, jusqu'à la vraie folie du cœur. Et je vais terminer, parce qu'il faut terminer, avec Marthe Robin. Et je vous laisserai aussi... Ah oui, je me reviens... un ami qui a donné la communion à Mère Teresa. Il a donné au calice la communion d'abord au corps de Christ. Ensuite, lui, il a tendu le calice, elle s'est jetée sur le calice. Vraiment, jetée dessus. Comme tout se jetterait dans le lit nuptial, elle s'est jetée sur le calice. Et dans un même moment où elle vivait la nuit de la foi. Et donc, même des personnes qui sont apparemment très dépouillée de tout sentiment, en réalité, l'extase dont je parle, elle est dans le plus intime du cœur, elle n'est pas nécessairement sensible, mais elle est une force extraordinaire. Elle reste comme une force qui porte la personne, qui fait vivre sa vie passionnément. Alors, je termine par Marthe. La souffrance atteint et déclenche nos plus intimes ressorts. Elle nous rappelle le but où nous devons tendre, parce qu'elle nous empêche de nous acclimater en ce monde. Elle nous y laisse comme en un malaise incurable. Qu'est-ce en effet que s'acclimater, sinon trouver son équilibre dans le milieu restreint où l'on vit hors de chez soi? Il sera donc toujours nouveau de dire, là où on se trouve, on est mal. Il est bon de le sentir. Le pire serait de ne plus souffrir. Comme si l'équilibre était trouvé et le problème déjà résolu. Sans doute, dans le calme d'une vie moyenne, la vie paraît toujours s'arranger d'elle-même, et en face d'une douleur réelle, il n'y a point de belles théories qui ne semblent vaines ou absurdes. Dès qu'on en approche, on éprouve quelque chose de vivant et de souffrant, les systèmes sonnent creux, les pensées restent inefficaces. La souffrance, c'est le nouveau, l'inconnu, le divin, l'infini qui traverse la vie comme un glaive révélateur, nous montrant les désirs du Christ en chacun de nous. Ad lucem per crucem.